1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Nous nous retrouvons avec Éric de Nimal pour le troisième épisode consacré à la vie de Martin Luther, dont on fête cette année le 500e anniversaire, non de la naissance, non de la mort, mais de l'affichage des 95 thèses du moine augustin, du docteur en théologie. Il ne sait pas encore qu'en placardant ses thèses, il ébranle toute la chrétienté. Dans l'émission précédente, vous disiez, Éric, ce qui fait sortir Luther de sa réserve, ce sont les indulgences. Alors, petit rappel pour nos auditeurs.
Alors voilà, selon la tradition catholique, le péché est effacé par le sacrement du pardon. Mais ce sacrement n'enlève pas la peine temporelle qui se traduit par un temps au purgatoire si elle n'a pas été purgée ici et maintenant par des actes de charité. Cette sanction peut être atténuée ou effacée par les indulgences. Pour Luther, qui a lu dans la Bible que le salut est totalement gratuit, le principe des indulgences est insupportable, surtout la façon dont elles sont imposées. On va donc vers le clash. La vente des indulgences est programmée partout en Europe, non pour sauver les âmes du purgatoire en vérité, mais pour trouver le financement à la basilique Saint-Pierre à Rome, qui est en construction. Le promoteur de cette vente en Allemagne se nomme Johann Tetzel. C'est un prêtre dominicain chargé par l'archevêque de Mayence de percevoir en Allemagne les fameuses indulgences. Il faut ajouter que l'archevêque a négocié avec le pape. Il recevra 50% des ventes faites par Tetzel. Or, Tetzel est un prédicateur enflammé et convaincant. Il a 27 ans et partout où il passe, il scande Saint-Étienne s'est laissé lapider, Saint-Laurent s'est laissé griller, Saint-Barthélemy a souffert le plus cruel des supplices. Qu'est-ce que le sacrifice d'un peu d'argent en comparaison de ces martyrs? Vos parents, vos amis gémissent dans les tourments du purgatoire, vous pourriez les en délivrer par une faible aumône et vous ne le feriez pas.
Des arguments aussi culpabilisants ne peuvent qu'impressionner une population assez crédule.
D'autant que toute personne qui s'oppose à la vente des indulgences est excommuniée. Il y a bien quelques personnes qui s'étonnent de ce que Dieu aime tant l'argent. Mais comment s'opposer à Rome ? Cependant, l'électeur de Saxe, soucieux des finances de ses nobles et de son peuple, ne permet pas à Tetzel de franchir les frontières de son État. Il n'empêche que les gens, inquiets du salut de leurs défunts et du leur, vont jusqu'à Tetzel pour recevoir ses lettres d'indulgence. Et bientôt Luther voit arriver, à Wittenberg, de braves paroissiens tout heureux de lui présenter ses documents. Luther en est bouleversé. L'année précédente déjà, il avait prêché contre ses indulgences, contre ses lettres d'indulgence, et dès que Tetzel a commencé sa campagne, il a écrit à tous les évêques d'Allemagne pour leur demander de ne pas cautionner ce trafic. Mais il n'a pas vraiment été écouté. Alors, il se met à rédiger quelques thèses pour réfuter le pseudo-pouvoir des indulgences et surtout sur la malhonnêteté des vendeurs, des abus de ces vendeurs.
Ce sont alors ces fameuses thèses qu'il va publier et placarder sur la porte de l'église du château de Wittenberg le 31 octobre 1517.
Tout à fait. En fait, quelques temps plus tôt, Luther avait écrit à l'archevêque qui s'appelait Albert de Brandebourg pour lui demander d'arrêter l'action de Tetzel, qu'il associe d'ailleurs à de la simonie.
La simonie, n'est-ce pas le trafic, la vente des choses sacrées, des biens spirituels ?
Oui, tout à fait. Le terme vient directement du Nouveau Testament. Dans le livre des Actes, on voit Pierre et Jean annoncer l'évangile et guérir des malades. C'est alors qu'un magicien de Samarie, nommé Simon, veut négocier le pouvoir des apôtres en l'achetant à grand prix. Et Pierre lui a répondu vertement à l'époque « Que ton argent périsse avec toi puisque tu as pensé que le don de Dieu pouvait s'acheter ». Et c'est suite à cette expérience et à cette condamnation que Simon a donné son nom à la simonie.
Donc Luther écrit à l'archevêque pour dénoncer les abus autour des indulgences.
Et pour accompagner son courrier, pour justifier ses positions, Martin Luther rédige une espèce de plaidoirie dans laquelle il dresse toutes les raisons pour refuser ce trafic et pour condamner, au passage, les prétentions de l'Église. C'est là que sont élaborées les 95 raisons qui seront ensuite résumées en 95 thèses. thèses, et ces thèses que Luther va faire connaître au grand public, puisque l'archevêque n'a pas répondu. Et en choisissant d'afficher son texte le 31 octobre au soir, il vise tous les croyants qui, le lendemain, c'est-à-dire un 1er novembre, jour de la Toussaint, se presseront à la messe.
On parle sans cesse de ces 95 thèses, mais que disent-elles pour qu'elles deviennent aussi importantes et déchirent la chrétienté ?
Alors, je ne peux pas vous les présenter toutes, naturellement, mais en voici quelques-unes. Je cite, hein, « C'est une invention humaine de prêcher que sitôt l'argent résonne dans leur caisse, l'âme s'envole du purgatoire. » Ou bien encore, « Ce qui est certain, c'est qu'aussitôt que l'argent résonne, l'avarice et la rapacité augmentent. » La mort délie de tout. Les morts sont morts aux lois de l'Église et celles-ci ne les atteignent pas. Ou bien encore, la transformation des peines en peines de purgatoire est une mauvaise herbe semée certainement pendant que les évêques dormaient.
En plus, il y a de l'humour.
Humour et bon sens. J'aime bien celle-ci. Pourquoi le pape ne délivre-t-il pas d'un seul coup toutes les âmes du purgatoire pour le plus juste des motifs et par pure charité, tandis qu'il en délivre pour un argent indigne et pour la construction de sa basilique ? Donc c'est ainsi que ces 95 thèses ont provoqué une violente réaction de la part des autorités religieuses. Mais très vite, elles ont été copiées, recopiées, imprimées, distribuées largement, augmentant ainsi la popularité de Luther auprès de la population. Très vite aussi, ces thèses ont été traduites et diffusées en France, en Italie, aux Pays-Bas. Luther découvre alors l'effet de ces textes et il s'écrie « mon Dieu m'emporte, ce n'est pas moi qui suis le maître de moi, j'aspire au repos et me voilà au cœur de la tourmente ». En fait, la tourmente ne fait que commencer. Au début, Rome ne s'inquiète pas vraiment du cas Luther, sauf que très vite, on voit que les ventes d'indulgences baissent. Les rentrées d'argent diminuent fortement. Alors on envoie de Rome un expert en théologie pour contredire et pour museler Luther. Des débats publics sont organisés et cela passionne les gens qui viennent écouter ces échanges musclés et les noms d'oiseaux s'échangent souvent avec violence. L'envoyé du pape s'appelle Silvestro Mazzoleni. Il se présente avec tous les vêtements d'apparat que peut porter un dignitaire romain. Face à lui, un moine en robe de bure. Mais Luther n'est pas impressionné par la pompe ecclésiastique. Il est déterminé à défendre ses positions et surtout, il est très doué dans les joutes oratoires. Il martèle avec de plus en plus d'assurance ce qu'il croit et ce qui est de plus en plus évident pour lui. Il est applaudi lorsqu'il déclare avec force « L'essence de l'Église consiste dans les rapports immédiats, c'est-à-dire sans intermédiaire, des fidèles avec son chef invisible, le Christ. »
Sans intermédiaire, Luther a franchi un cap.
Tout à fait.
Il semble dire que l'Église n'est qu'une organisation secondaire et que le passage obligé par le clergé peut disparaître. C'est osé d'attester cela devant un représentant du pape.
Mazzoleni ne s'attendait pas du tout à de telles prises de position et c'est tout juste s'il ne tombe pas à la renverse quand Luther associe le clergé aux astuces du diable. L'envoyé du pape le menace d'excommunication, mais Luther semble inatteignable. Lui qui était si peu assuré de son Dieu et de sa condition devant Dieu, le voilà devenu un chevalier en croisade. Et il laisse tout le monde pantois lorsqu'il déclare « Je préférerais être maudit et banni par vous et par vos pères plutôt qu'être béni et loué en votre compagnie. Je n'ai rien à perdre. Si je meurs dans le Seigneur. Cherchez donc quelqu'un d'autre à intimider. » Et sur ce, Luther rentre chez lui dans son couvent de Wittenberg.
Je suppose que les choses ne vont pas en rester là.
Et non, la tension est de plus en plus grande. En effet, et Luther entre progressivement dans une certaine opposition. Mais son but n'est pas de créer une déchirure ou un schisme. Il pense toujours que Léon X, le pape, doit être correctement informé de ce qui se passe dans son église parce qu'il est persuadé que le pape ne mesure pas du tout les erreurs du clergé. Et de retour à Wittenberg, il se met à écrire un ouvrage, « Résolution ». C'est un ouvrage qui est une explication de ses thèses. Là, il développe ses positions et il affirme que les indulgences et les pénitences sont des inventions qui viennent des papes et de l'Église romaine et non pas du Christ. Il déclare que le pardon de Dieu peut être accordé à chacun si la personne est repentante, même si un prêtre lui refusait l'absolution. Mais Luther, qui a le devoir de l'obéissance et de l'humilité, reste soumis au pape. Il termine même son livre « Résolution » en implorant Léon X « Rends-moi la vie, dit-il, tue-moi, approuve-moi, rejette, fais de moi ce que tu veux ». Le pape, lui, de son côté, envoie un nouveau cardinal en Allemagne pour faire pression sur le prince de Saxe et le protecteur de Luther. Il s'agit du cardinal Cajetan, qui convoque aussitôt Luther à Worms, alors que la diète impériale se réunit dans cette même ville. Une diète, c'est une assemblée générale des États. Plusieurs pensent que Luther est en danger et on réclame pour lui un sauf-conduit. Nous sommes en 1518 et la rencontre avec cet envoyé du pape est vraiment tendue. Le cardinal ne veut pas de discussion. Il demande, il ordonne que le moine se rétracte de toutes ses positions. Luther ne se laisse pas impressionner. Plus tard, Luther écrit à un de ses amis ce qu'il pense de ce Cajetan, le dominicain. « C'est peut-être, dit-il, un théologien renommé, mais il est fait pour juger de ses questions sur la foi comme un âne pour jouer de la harpe. » De son côté, le cardinal signale « Ce moine a les yeux profonds. C'est pour cela qu'il a des idées si étranges en tête. » Cela dit, Cajetan menace l'homme aux yeux profonds d'excommunication. « Rétracte-toi, dit-il, ou ne paraît plus jamais devant moi. » Cette fois, Luther sent la menace et avec ses amis, il quitte la ville parce qu'il sent que sa vie est en danger.
Le cardinal n'a pas fait changer d'avis le moine et je suppose que le pape n'est pas content.
C'est peu dire. Le pape reproche au cardinal de n'avoir pas été à la hauteur. Et le 9 novembre 1518, il publie un décret, on appelle cela une bulle, dans laquelle Léon X affirme qu'en tant que vicaire du Christ et successeur de Saint-Pierre, il a le droit d'accorder toutes les indulgences qu'il veut aux vivants comme aux âmes qui sont au purgatoire. Il ajoute que la chrétienté devrait se soumettre à son autorité. La bulle est envoyée à tous les évêques d'Allemagne.
Les démêlés avec Rome sont de plus en plus fréquents et Luther devient assez virulent.
Quelque temps après cette fameuse bulle, Luther, dans une lettre de décembre 1518, parle du pape comme du véritable antéchrist. C'est un terme fort pour parler de l'adversaire du Christ. C'est un mot que l'on trouve surtout dans l'Apocalypse de Jean, dernier livre du Nouveau Testament. Pour Luther, le pape est devenu le pire corrupteur de la foi chrétienne. Cette déclaration concernant le pape a souvent été reprise ensuite d'ailleurs dans l'histoire et souvent et surtout de la part des protestants. Quelques mois plus tard, il prononce un sermon virulent, je parle bien sûr de Luther, contre la puissance pontificale.
Finalement, le pape décide de frapper fort en décrétant que Luther est un dangereux hérétique et qu'il est excommunié de l'Église.
Ce qui devait arriver arriva finalement. Des deux côtés, les positions sont rigides, inflexibles. Luther est sûr de ses croyances et de sa théologie. Rome ne veut pas plier. Du coup, oui, effectivement, le 15 juillet 1520, la messe est dite, si j'ose dire, et Luther est excommunié. Luther a 62 jours pour se rétracter, pour abjurer et revenir à la doctrine officielle de l'Église. Après quoi, il est livré au bras séculier. Naturellement, Luther reste sur ses positions et la sanction définitive tombe. Luther est hérétique et ceux qui le suivent aussi. Les écrits de Luther doivent être brûlés. Frédéric le Sage, le prince électeur, est sommé de livrer Luther aux autorités religieuses pour qu'il soit emmené à Rome, mais le prince refuse. Luther écrit à un de ses amis « Excommunié par le pape, me voilà délié de ma soumission au souverain pontife et aux lois monastiques. J'embrasse avec joie cette délivrance, mais je ne quitte ni le couvent, ni l'habit de l'ordre. »
Nouvelle étape importante dans la vie de Luther, c'est la rupture. Avec vous, Éric Denimal, nous verrons dans le prochain et dernier épisode de cette série sur la vie de Luther comment cette rupture avec Rome va déchirer la tunique sans couture de l'Église catholique. À bientôt donc.
1517 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017. Vivre la fraternité.